Le Talmud raconte que lorsque Dieu créa le monde, il se servit de la Torah comme plan d'architecte. Une manière de dire que le monde qui se présente à nous est un texte à déchiffrer, un livre à interpréter, mais pas forcément une œuvre d'art à contempler, tant on sait que le judaïsme entretient une relation pour le moins crispée avec l'art plastique et graphique. On pense bien sûr au deuxième des 10 commandements qui interdit de représenter le monde sous forme d'image, mais aussi à cette ligne générale dans la Torah qui privilégie la parole à l'image. Marc-Alain Wachnin, bonjour d'abord.
Bonjour.
Cette question du rapport entre le texte et l'image accompagne vos travaux depuis le début. Je pense à vos mystères de l'alphabet, dans lequel vous essayez de reconstituer le passage du hiéroglyphe à la lettre. Je pense aussi à votre Agada illustrée avec votre ami le peintre Gérard Garouste. Et là, cette monumentale Genèse de la Genèse aux éditions Diane de Sellier. C'est un peu un aboutissement de cette quête, de cette démarche, puisque vous y mettez en résonance une traduction, un commentaire, beaucoup de notes de bas de page et des œuvres d'art abstrait autour de ces 11 premiers chapitres de la Genèse. Et dans votre introduction, vous dites que la Torah, ce n'est pas une histoire vraie, c'est une vraie histoire. Alors ça veut dire quoi?
Ça veut dire que on oublie très souvent que nous sommes en face d'un livre. Un livre qui raconte la création du monde et dont l'un des personnages, voire le personnage central, c'est Dieu. Car si Dieu était l'auteur de ce livre, si c'était une forme de révélation d'un Dieu qui dit voilà mon livre, le texte aurait commencé très simplement. Je le dis souvent avec beaucoup d'humour. Bonjour, je m'appelle Dieu. Voici le livre que je vous donne. Voici les lois que je vous donne. Or, dès le premier verset, Dieu qui est nommé Elohim, Dieu a plusieurs noms dans la Bible, Dieu qui est nommé Elohim, n'est pas le narrateur. Il est un personnage. Il y a un narrateur qui est derrière, qui est en train de raconter une histoire. Vraisemblablement, en tout cas, c'est ma position et il semble que le Talmud le propose aussi, une grande partie de la Torah, voire toute la Torah, aurait été peut-être rédigée, en tout cas, c'est sûr, par Ezra le scribe au moins 5e siècle dans l'exil de Babylonie.
Oui, donc c'est-à-dire que les faits qui sont racontés dans la Genèse, là par exemple, on n'est pas en train de nous dire comment les choses se sont produites.
Non, on ne nous raconte pas que la création du monde a eu lieu de cette manière-là, mais on est en train de nous dire si on veut faire le récit de la création du monde, si on veut la raconter, on aurait pu la raconter différemment, alors voici comment nous proposons de la raconter. C'est une mise en scène, c'est un récit, c'est-à-dire que c'est un texte littéraire, et de dire cela, ça a des conséquences énormes, parce que le rapport que l'on va avoir avec ce texte, et le rapport qu'on va avoir avec tout texte littéraire, c'est-à-dire une dimension de l'interprétation. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, révolutionnaire, pas dans ce que je dis, parce que tous les maîtres de la tradition ont ce rapport à l'interprétation, mais c'est rare de souligner que c'est une œuvre littéraire. Et Rashi, dès le premier verset, est sensible à cette idée de littérature, parce qu'il dit, si la Torah était, comme on le croyait, un livre de loi, la Torah aurait dû commencer par le 12e chapitre de l'Exode, la loi du calendrier. Mais il dit, ce qui est important, c'est qu'il y a de la Haggadah, qu'il y a du récit, Koharma Savigid le Hamo, dit Rashi, il faut qu'il y ait du récit. Et qu'est-ce que vient dire ce récit? Ben justement, c'est-à-dire que, en fait, l'homme que nous sommes est pétri, si vous voulez, d'histoire. Notre identité, c'est maintenant à la mode et c'est devenu galvaudé, donc c'est plus très intéressant. Et il y a une identité narrative, dit Ricoeur. Moi, je dirais maintenant, l'essence de l'homme, c'est une identité littéraire. Et ce que la Bible invente pour le peuple juif au départ, c'est cette identité littéraire.
Alors justement, c'est là que ça devient passionnant parce qu'il y a toujours ce débat entre vision religieuse, vision scientifique, de la datation de l'origine de l'univers en milliards d'années ou 5 780 ans selon la tradition juive. Et vous, vous dites qu'il y a là une conjonction extraordinaire entre la date traditionnelle du judaïsme et l'apparition de l'écriture, ce moment où les hommes ont commencé à écrire des histoires, et que Bereshit, ça serait ce moment-là.
Alors, c'est exactement ce que j'ai voulu souligner. Je pense que c'est une, pour moi en tout cas, une des grandes découvertes que j'ai eu le plaisir de faire. C'est que je me suis posé la question, pourquoi effectivement le judaïsme traditionnel date la création de 5780 années, alors qu'on sait très bien que ça a au moins quelques millions d'années, voire plus. Et je me suis dit, en date française, enfin en date occidentale, si on peut dire, le moins 5780, ça fait moins 3760. Moins 3760. Qu'est-ce qui s'est passé en moins 3760 pour qu'on ait voulu garder cette date comme le début de la création du monde? Et de manière très simple, il s'est avéré que cette date est très connue par les historiens, à quelques centaines d'années près, je pourrais dire à quelques dizaines d'années près, c'est la date de la naissance de l'écriture, à la fois en Babylonie et à la fois en Égypte. Et à ce moment-là, le monde, quand on dit le monde a 5780 années, c'est-à-dire le monde tel qu'il a pu être mis par écrit dans un récit, dont la Genèse est un des récits, c'est ça la création du monde. La création du monde littéraire, la création du monde qui peut être racontée. Et ça, c'est une histoire qui est une histoire vraie, même si ce n'est pas une vraie histoire, parce que la vraie histoire, qui est ce que j'appelle l'histoire absolue, personne n'y a accès.
Pourquoi est-ce que les hommes ont besoin de se raconter ces histoires?
C'est une des énigmes, mais absolument fantastique. Nous sommes pétris d'histoire. Et le texte de l'histoire se dit en hébreu Sippour, et le Sefer Yetzirah, le livre de la création, dit très bien, le monde a été créé be Sefer, c'est-à-dire avec le livre, la matière du livre, les lettres de l'alphabet, be Sefar, avec les nombres, c'est-à-dire la dimension harmonique des nombres et des mathématiques, et Bessipour avec le récit. Le récit est un fondement, c'est le matériau principal, les matériaux principaux de la création, non seulement de l'homme, mais de l'humain.
Est-ce que c'est à ce titre, justement, Marc-Alain Wacklin, que vous traduisez le tout premier verset de la Genèse par une traduction, à mon sens, inédite et assez inattendue? Premièrement, point, Dieu créa l'alphabet de la terre et l'alphabet du ciel.
Alors on va le prendre à l'envers, puisque c'est d'abord l'alphabet du ciel et l'alphabet de la terre. En tant que traducteur, pour traduire, j'ai repris toutes les traductions qui existent, en français, en latin, en grec, dans toutes les traductions, et je me suis aperçu que depuis 2000 ans que ce texte existe à peu près, il y a sur le premier verset qui comporte sept mots, il y a toujours deux mots qui n'ont jamais été traduits. Et ça m'a semblé très très étonnant, parce qu'on a Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz, sept mots, et ce qui est traduit c'est au commencement ou premièrement, mais j'expliquerai, je vais garder la traduction classique, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la particule et en hébreu n'est jamais traduite. Et je me dis, c'est pas possible, si il faut sept mots pour créer le monde, si je n'en traduis pas deux, le monde ne peut pas continuer à exister, va vaciller.
Alors,
Et
comment on
donc,
passe de et à l'alphabet?
comment on passe de et à l'alphabet? Ben ça, c'est la chance de la lecture. Et je suis tombé sur un commentaire du Zohar, dans le Zohar, donc le Midrash à Zohar, sur Bereshit, qui dit que Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz, le et, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est le Aleph. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet, et que Aleph Tav signifie l'alphabet. Et je me suis dit que cette interprétation du Zohar, qui est donc une interprétation traditionnelle, il ne faut pas simplement dire que c'est une interprétation, mais elle nous invite à une nouvelle traduction. Et c'est pour cela que j'ai traduit premièrement point, c'est-à-dire que pour moi, le premièrement, c'est qu'il y a un point, parce que l'alphabet est créé par Ezra, à partir de trois formes mères qui sont le point, la ligne et le plan. Et ça, on le retrouve dans le Schla, on le retrouve dans différents commentateurs qui disent que le point, c'est le yod, la ligne, c'est le vav, et que le plan, c'est le dalet. Et quand vous écrivez point, ligne, plan, c'est-à-dire yod, vav, dalet, vous avez écrit yod, mais vous avez écrit toute la possibilité combinatoire. Je peux faire un e, je peux faire un aleph. Toutes les lettres de l'alphabet sont issues d'une combinatoire de ces trois formes mères. Et pour le dire, pour le souligner, j'ai traduit premièrement point que j'ai mis en regard d'un tableau extraordinairement fort de Malevitch qui s'appelle rond noir ou point
cercle
noir,
noir,
cercle noir sur fond blanc et qui dialogue complètement avec ma traduction. Et donc, c'est pour cela que j'ai traduit premièrement point. Le point fait partie de la traduction. Elohim créa l'alphabet du ciel et l'alphabet de la terre.
Le nom de Dieu, vous ne l'avez pas traduit.
Alors, le nom de Dieu, je ne l'ai pas traduit parce que Dieu, pour la tradition biblique, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué parce qu'il a plusieurs noms. Il s'appelle parfois Elohim, comme au début de la création du monde. Il s'appelle tétragramme, Yod et Vav et, par la suite, assez rapidement dans le texte. Et puis, très rapidement, il va s'appeler Elohim Adonai, Elohim tétragramme. Parfois, il va s'appeler Tsevaot, parfois, il va s'appeler Shaddai. Donc, en fait, les noms que nous avons dans la Torah, ce n'est pas Dieu. Ce sont des manifestations du divin, ce sont des hypostases, comme diraient les philosophes, c'est-à-dire des intermédiaires entre le divin et le monde des manifestations. Et Elohim, disent les commentateurs, qui est un pluriel, Elohim c'est un pluriel, ce sont les forces qui ont permis au divin de créer le monde. Donc traduire Elohim par Dieu, c'est une forme d'idolâtrie.
Vous auriez pu traduire les forces, les puissances.
Les forces et les puissances, j'aurais pu, mais...
Ou l'éternel pour Yudke Vavke.
Alors l'éternel, c'est une traduction que l'on doit à la fois aux protestants, et puis Mendelssohn a déjà beaucoup travaillé sur ces différentes possibilités. Au départ, j'avais souhaité traduire Dieu nommé ici Elohim. Et puis après, traduire Dieu nommé ici tétragramme. Mais quand le tétragramme apparaissait pour la première fois, j'aurais traduit Dieu nommé maintenant est tétragramme. Et quand on repassait à Elohim, et Dieu nommé à nouveau Elohim. Alors, je trouvais ça important, intéressant, mais ça alourdissait un petit peu le texte, et on n'était plus dans la traduction, on était presque dans la paraphrase. Donc j'ai préféré mettre des notes en bas de page.
Qui sont nombreuses. Qui constituent presque un livre sous le livre.
Voilà, ben, je suis heureux que vous l'ayez apprécié, un livre sous le livre, parce que pour moi, effectivement, les notes de traduction sont si importantes que la traduction.
Est-ce qu'il vous est arrivé de vous casser les dents sur des termes, sur des expressions intraduisibles ?
Tous les mots sont intraduisibles. Non, mais vraiment, je ne dis pas ça par... comment traduire Bereshit ? Bereshit, c'est premièrement, c'est au commencement, certains traduisent premier, etc. Donc, de toute façon, une traduction, elle n'est jamais totalement juste. Quand on dit traduire, c'est trahir, c'est pas une fantaisie, c'est réel. Mais parfois, il y a on est presque enclin, tenté de laisser le texte tel quel en hébreu. Par exemple, Tohu Bohu, j'aurais pu, parce que c'est joli, déjà Tohu Bohu, ça fait un peu enfantin, et la terre était Tohu Bohu, c'est marrant, c'est bien. J'ai trouvé qu'il y avait de nombreux mots que Rashi traduisait en ancien français. Et je me dis, mais c'est formidable, parce que ces mots en ancien français sont les plus anciennes occurrences du français dans les glosses de Rashi, et c'est formidable de les réveiller. J'avais cette image de réveiller les princesses endormies. Pour moi, c'était ça. Je me suis aperçu que cette formule était plus tard de Paul Valéry.
Et donc, il vous est même arrivé de traduire en ancien français. Alors, donc, Tohu Bohu, vous le traduisez par...
Étourdissance. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé un néologisme à partir de Rashi qui dit « estourdissons ». Et je me suis dit, mais voilà, ça me permettra de mettre une note et de renvoyer à cette trouvaille de Rachid.
Et ainsi remettre à la mode l'ancien français. Et c'est aussi un processus que vous utilisez à la manière d'Henri Méchonic, je crois, concernant Babel. Quand Dieu descend et dit qu'il va mélanger les langues, vous dites « en Babylon leur langue ».
Voilà. Alors, Méchonic, bon, qui est très important, et je vous remercie de le citer, parce qu'un travail de traduction, c'est vraiment comme c'est un travail de, c'est un travail artistique, si vous voulez. Et on ne devient pas traducteur comme ça, on ne s'invite pas, on ne s'improvise pas traducteur. C'est s'inscrire dans une très longue tradition. Mmh. Et donc, il y a, pour la traduction française, il y a de nombreux traducteurs, mais dans les traducteurs juifs, il y a Chouraki, et il y a Méchonic, il y a Lazar Vogue, il y a le Rabbinat, il y a Samuel Cahen. Enfin, il y a un ensemble de gens. Et tout à coup, je me suis dit, par rapport à cette traduction, qu'est-ce qu'il y a chez mes prédécesseurs? Ça fait prétentieux, mais j'aime bien le dire, puisque c'est comme cela que ça se passe, qui sont des belles trouvailles. Mmh. Et en Babylon, c'est magnifique, parce que, à la fois d'un point de vue sonore, c'est très mal arméen. Hein, bibelot, c'est Babylon, il y a quelque chose.
C'est une onomatopée.
C'est une forme d'onomatopée, mais très proche de Babel, mmh, en même temps. Et donc, j'ai gardé parfois, et je le dis en note, la traduction de certains de mes prédécesseurs. Chouraki en tête, c'est beau.
Pour Bereshit.
Pour Bereshit, mais c'est trop, trop marqué.
Alors, il y a tous ces grands traducteurs qui vous précèdent, mais vous frayez aussi votre propre chemin de traducteur dans cet océan de traduction. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Je crois que vous êtes le premier à le faire, c'est le cas de le dire. Yom Echad.
Oui.
Qu'on traduit normalement par le premier jour ou oui, jour 1.
Oui.
Et vous dites jour unique.
Ben, c'est magnifique. non, mais c'est vrai, c'est magnifique. Et je suis très, très heureux de l'avoir... trouvé, rencontré. Hein. Vous savez, vous connaissez ma passion pour le chidouche, pour la nouveauté de sens que j'ai appliquée à la traduction. Et je me suis dit, si c'était jour 1, ou premier jour, comme on a dit, et premier jour, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième, mais premier, en hébreu, se dit Rishon. Et donc, on aurait eu Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Et d'ailleurs, on a Yom Sheni, Yom Shlishi, etc. On a bien deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Mais le premier jour n'est pas marqué dans le texte. Et Yom Echad, ça veut dire jour, ça pouvait, j'aurais pu traduire jour 1, mais c'était impossible. Pourquoi? Parce que le judaïsme est fondé sur une proposition qui s'appelle le Shema Israël, dans laquelle on dit Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dieu est un. Et c'est-à-dire Dieu est unique. Et par intertextualité, si Dieu est unique, dans le Echad, le jour est aussi unique. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ça, c'est inspiré de Rashi, surtout.
Ça, c'est inspiré de Rashi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surtout que chacun d'entre nous doit considérer le jour que nous vivons comme un jour unique. C'est-à-dire que si on ne le vit pas, ce jour, comme un jour unique, on risque de laisser passer un jour qui n'aura pas existé pour nous. Mmh. C'est-à-dire qu'avant de dormir, de s'endormir, on se pose la question. On se parle à soi-même. Moi, je dis Marc Alain, mais bon, ça fait un peu bizarre. Et en quoi le jour qui vient de passer a été pour toi un jour unique? Ça veut dire un jour qui n'est pas remplaçable et qui est vraiment extraordinaire parce que c'est passé quelque chose d'unique. Et si ce n'est pas le cas, ben, tu te relèves et tu vas faire en sorte de trouver un commentaire unique. Voilà.
Je voulais poursuivre sur cette question de l'art. L'art abstrait que vous avez placé donc en regard de chaque verset quasiment, chaque suite de versets de la Genèse. Est-ce que ça signifie qu'il y a des choses que les mots ne suffisent pas à exprimer?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'en suis pas sûr. L'idée, c'est que nous sommes dans un monde de l'image, nous sommes dans une inflation d'images, nous sommes dans ce que j'ai appelé déjà il y a très très longtemps, il y a une dizaine d'années dans Zogma, rappelez-vous, déluge contemporain, c'est un déluge d'images. Et ce déluge d'images, pour moi, c'est le fait que nous ne savons plus regarder. Mais je me suis aperçu que ne plus savoir regarder, c'est aussi perdre un petit peu l'art de lire. L'art de lire et de commenter. Et en même temps, tout à coup, c'est imposer l'abstraction.
Alors, qu'est-ce que ça apporte
Voilà,
par
ça
rapport aux
apporte,
mots, par rapport au
ça
texte?
apporte, c'est énorme ce que ça apporte. Pour moi, je ne suis plus le même aujourd'hui, après l'abstraction et avant l'abstraction. Je veux dire que l'abstraction m'a donné des outils, une méthodologie, ou en tout cas une formulation, qui me permet d'expliquer ce que je fais dans le texte à partir de ce que l'on peut faire à partir de l'image. Et cette découverte, elle me vient de Kandinsky. Kandinsky, dans son livre qui s'appelle Du spirituel dans l'art, et en particulier en peinture, dit une chose extraordinaire. Il dit, j'ai découvert l'abstraction en regardant Rembrandt, et en particulier à l'Ermitage, et en particulier dans les clairs-obscurs. Et il dit, c'est quoi l'abstraction? L'abstraction, dit-il, il dit, le personnage principal de la peinture abstraite, c'est le temps. Personnage principal, c'est le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui fait l'abstraction, c'est le fait que celui qui regarde un tableau, il prend le temps de rester longtemps devant le tableau pour que du tableau surgissent des choses qu'on ne pourrait pas voir d'emblée. Et d'ailleurs, il se dit, à partir du moment où il a compris cela chez Rembrandt, il a mis dans ses propres tableaux des petites énigmes pour que le spectateur prenne le temps de regarder. Mais pour moi, la formule est la suivante. L'abstraction, c'est s'abstraire de la pulsion de l'immédiateté de la compréhension. Ça veut dire que je vois quelque chose et je me dis, je ne peux pas comprendre immédiatement. Je dois prendre le temps, je dois poser des questions, je dois me questionner. Et le travail que fait l'abstraction face au tableau est exactement le même travail que je fais par rapport au texte en hébreu pour traduire, mais aussi pour comprendre.
Vous le dites dans votre introduction d'ailleurs, le texte de la Torah est en soi une œuvre abstraite.
Voilà, une œuvre abstraite. Pourquoi? Parce que devant chaque verset, devant chaque mot, devant chaque lettre, eh ben je m'abstrais de cette pulsion de l'immédiateté de la compréhension. Je dis Bereshit, je lis, je traduis, je dis non, je n'ai pas encore compris, et je vais rester 1 heure, 2 heures, 3 heures pour essayer de faire surgir quelque chose d'absolument inédit. Je vais questionner, et c'est ce questionnement lui-même qui est le temps. Vous vous rappelez, déjà, cela remonte à cette découverte que j'ai faite en 89, lorsque j'écrivais Lire aux éclats. Et je m'intéresse à cette question de la manne, ce pain du ciel. Et je suis troublé, alors que je le savais, mais que ce mot lui-même, manne, veut dire la question. Chacun, quand ce pain tombe du ciel, chacun sort de sa tente et dit à son voisin, manne où? Qu'est-ce que c'est? Et puis tout à coup, j'ai eu une sorte d'éclair, si on peut dire. Et je me suis dit que quand on parle hébreu et qu'on pose la question sur les objets, et surtout aux enfants, ou dans un oulpan, ou quand on apprend l'hébreu, si voici un livre, je dis mazé, vous allez dire zé sefer. Si je prends des lunettes, je dis mazé, vous allez dire zé mishkafayim. Je prends une bouteille, je dis mazé, vous allez dire zé bakbouk, etc. Mais si je prends la manne, et je vous montre la manne, et je vous dis mazé, vous allez dire zé man. Voici la manne. Et zé man, c'est précisément le mot qui en hébreu veut dire le temps. Et j'ai compris que le temps en hébreu, le terme apparaît très, très tardivement dans le texte hébraïque, il apparaît dans Kohelet et dans Esther. C'est que dans la Torah elle-même, le mot zman n'apparaît pas. C'est un terme tardif. Mais
Peut-être que toute la Torah elle-même est conditionnée par le Zman.
Exactement, parce que la Torah elle-même, on pourrait dire, c'est le temps. C'est le temps parce que c'est la question. Et j'ai compris que le temps se construit des questions que nous sommes capables de poser, exactement comme dans l'abstraction, Le personnage principal, c'est le temps, par l'ensemble des questions que celui qui regarde est capable de poser.
Alors la transition est toute faite avec une dernière question que je voulais vous soumettre, qui est d'ordre de considération générale sur notre temps, justement. Vous parliez tout à l'heure du déluge contemporain. Il y a le déluge de l'immédiateté, on est dans le monde de l'immédiateté, de l'image. Et puis, va de pair avec ces deux premiers déluges, un troisième. Je voulais passer par une anecdote personnelle. Récemment, je cherchais un document administratif chez moi. Vous avez rappelé d'ailleurs dans ce livre que l'écriture a commencé par des documents administratifs, de la comptabilité. J'ai dû retourner toute ma maison et puis je suis tombé sur le fameux coffre qui contient toute ma correspondance écrite. C'est-à-dire que j'ai encore l'âge où j'ai eu une correspondance écrite, nourrie, avec des amis, des parents. Toutes les personnes nées avant 1990 ont eu ça. Ça n'existe plus. Personne ne consulte ses anciens mails, personne ne stocke, n'archive ses anciens mails. Les hommes ne laissent plus de traces. Est-ce qu'on est en train de revenir à une civilisation sans écriture ?
Il y a... La question mérite d'être posée, et vous la posez. S'il y a un danger, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qu'apporte l'écriture ? Qu'est-ce qu'apporte l'écriture manuelle ? Je parle ici en termes d'écriture, le geste de la main. Le geste de la main.
C'est la singularité de chaque auteur.
C'est sa son graphie, style, ouais. sa graphie. Mais je pensais aussi à ce que disait Aristote, qui se posait la question, est-ce que l'homme est humain parce qu'il a une main, ou est-ce qu'il a une main parce qu'il est humain ? Il y a quelque chose dans la main, quelque chose de très, très spécifique. Nous savons, même quand on compare par rapport au grand singe, que l'humain a cette particularité de pouvoir opposer le pouce devant... opposer le pouce, qu'on appelle le mouvement d'opposition, devant chaque doigt. Le singe ne sait pas faire ce mouvement d'opposition. Et quand on fait des analyses neurologiques pour savoir quelle est la place de la main dans le cerveau, on s'aperçoit que la main et la bouche sont ceux qui ont les plus grandes places dans la carte graphique mentale ou neuropsychique. Et la main comme geste, la main qui prend, la main qui caresse, la main qui écrit, on a presque l'impression que la main a été faite pour pouvoir prendre un stylo, si vous voulez, pour pouvoir prendre un calame. Et je crois que le risque, c'est de perdre aujourd'hui la dimension, je dirais, physique même, de la main, qui va alors transformer notre rapport mental. Enfin, et je crois que... Et donc, il faut se poser la question, parce que c'est une vraie question, qu'est-ce qu'amène la main ? Voilà, qu'est-ce qu'amène la main ? Qu'est-ce qui se passe dans l'humain lorsque l'on perd le geste de la main ? Ça, c'est une question qui me semble intéressante. Et pourquoi elle est particulièrement intéressante dans notre débat ? C'est que le premier verset de la Genèse a 28 lettres. Donc, c'est un multiple de 14, 14 qui en hébreu écrit le mot yad, yud dalet, c'est la main. Et il y a dans le deuxième verset, vous verrez qu'il y a 14 mots, dans le premier verset il y a 7 mots, dans le deuxième verset il y a 14 mots, et j'ai l'impression que 14, donc la main, est quelque chose qui rythme la pensée du texte biblique. Il y a aussi le fait que la relation de la main par rapport à l'autre, là, vous voyez, on est l'un en face de l'autre, mais en arrivant, on pourrait se saluer. Et le texte en hébreu, c'est la racine, c'est pas un jeu de mots. Quand je prends ma main et que je vous donne la main et que vous prenez la mienne, on a yad et yad qui se mettent ensemble. Deux mains, ça écrit le mot yedid, qui veut dire l'ami. L'ami, c'est l'amitié, c'est la capacité de la rencontre entre les mains. Et j'ai l'impression que la perte du mouvement de la main, de la subtilité du geste, justement, qui est très particulier, peut-être va justement faire transformer l'humain en quelque chose de différent.
C'est peut-être à ce titre aussi que le dernier îlot où l'on utilisera toujours une main, non pas pour écrire, mais pour lire, c'est la synagogue. On utilise ce yad pour lire dans la Torah.
C'est exactement ça. C'est très beau ce que vous dites. C'est que pour rappeler l'importance de la main, c'est que la main elle-même est ce qui fait la médiation entre notre œil et le texte. On pourrait lire simplement Bereshit bara Elohim et pourtant il y a une main, ça s'appelle Yad en forme de main, parce qu'il est interdit de toucher le texte avec sa main, parce qu'il y a une forme de transcendance du texte. Pour dire tu ne peux pas prendre le texte à main nue, dit la Gemara, et que Lévinas commente longuement en disant on ne peut pas prendre le texte à main nue, c'est-à-dire dans le sens tel qu'il se présente, parce qu'il faut qu'il y ait de l'interprétation. Et la main qui est intermédiaire entre notre œil et le texte, c'est justement l'interprétation. Mais vous dites c'est le dernier îlot, non, c'est l'avant-dernier. Parce que le texte de la Torah lui-même doit être écrit à la main par un scribe. C'est-à-dire que même s'il y a, et j'ai vu un robot qui a été créé, magnifique, qui fait des Sefer Torah, mais écrit avec une plume, mais au bout d'une main robotisée, le Sefer Torah n'est pas kasher. Ça veut dire que ce que demande la tradition hébraïque, c'est, je dirais, l'engagement physique du corps humain dans la transmission de la tradition. Et ça, si vous le permettez, je rajouterai deux choses, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ce texte, dans cette traduction. Je me suis demandé, qu'est-ce que dit ces deux premiers versets de la Torah ou ces trois premiers versets de la Torah? Si ce n'est pas une histoire vraie, mais c'est une vraie histoire. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette vraie histoire? Elle raconte l'homme dans son corps. L'homme dans son corps, ça veut dire que c'est une jeune chercheuse qui s'appelle Marielle Massé, qui a écrit un livre qui s'appelle Manière d'être, manière de lire, qui cite un chercheur qui s'appelle Stanley Fish, qui parle de lecture kinésique. Lecture kinésique, ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je suis en train de lire un verset, un chapitre ou une phrase. Et la question, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe dans le premier verset quand je lis au commencement ou premièrement point? Et les images qui apparaissent, c'est le ciel et la terre. Et pour tout le monde, le ciel est en haut, la terre est en bas, ça trace une verticale. Et en disant simplement ce verset, notre corps se verticalise. Nous sommes dans cette verticalité qui, en hébreu, se dit anach. Anach veut dire vertical. Mais cette verticalité, elle dit beaucoup plus. C'est que être vertical, ça a donné un adjectif en hébreu qui est anochi. Anochi qui veut dire je suis. Je suis, c'est-à-dire je suis sujet, c'est toujours être vertical. Ou être vertical, c'est toujours être sujet. Ce qui est très important. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est allongé parce qu'il est malade ou ne peut pas se lever, s'il est sujet, ça veut dire s'il peut dire anochi, s'il peut dire je suis, malgré que son corps soit allongé, il est mentalement dans cette verticalité. Et quand je dis le deuxième verset, le souffle de Dieu était à la surface des eaux. La surface des eaux, Alpenei Hamaim, c'est une horizontalité. Et donc, les deux premiers versets disent la verticalité du corps et son horizontalité. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une résultante de la verticale et de l'horizontale, c'est la diagonale. Et je dis, l'homme est un être diagonal. Cette diagonale, c'est la diagonale de l'homme en marche. On peut penser à Giacometti, l'homme en marche, ça veut dire que ce que fait le verset, ce que font les versets, c'est de nous donner dans notre corps une dynamique de la marche qui nous permet d'avancer dans notre propre histoire.
Et cette dimension du corps dans le rapport au livre, c'est cette citation de Kafka que vous citez dans votre introduction, « On ne devrait lire que les livres qui nous mordent et nous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ?» C'est à ce titre que la Genèse de la Genèse illustrée par l'abstraction, aux éditions Diane de Sellier, un bébé de 3,7 kg, mobilise le corps, il faut se plonger dedans, c'est un travail de plusieurs années, on peut s'en plonger dedans pendant plusieurs années. Merci beaucoup, Marc-Alain Wachnin. Je rappelle au passage qu'on peut vous retrouver tous les dimanches matins à 9h10 sur France Culture, dans votre émission « talmudique produite avec Françoise-Anne Ménager.
Merci beaucoup, Ruben Honigman.
À bientôt.
À très bientôt.